La meilleure façon de connaître un sujet est de se documenter. La connaissance de Dieu est limitée, se limite aux connaissances reçues à l'école. Je le répéterai tout au long des podcasts qu'on pourra faire, des vidéos qu'on pourra faire, à la manière d'un refrain, comme une chanson. Lire la Bible n'a pas été inculqué dans l'éducation depuis plusieurs générations. On avait même interdit la lecture au cours de l'histoire de l'Église et même la simple possession d'un exemplaire de la Bible était interdite. Et ces interdictions n'existent plus maintenant depuis une cinquantaine d'années, mais le mal est fait. On n'est pas inculturé on n'est pas dans ce mood-là, du moins dans les églises traditionnelles, de lire les Écritures. Mais la mentalité est demeurée la même. Et ce qui fait que la société est devenue indifférente aux choses religieuses, aux choses sacrées, à la Bible, aux Saintes Écritures, parce qu'on n'y comprend tout à fait rien. Et c'est un monde complètement inconnu. Dieu parle dans la Bible, cette Bible qu'on ne comprend pas, qui a toute une prestance, mais c'est un monde inconnu. Mais Dieu parle à travers la Bible. Et on y retrouve toute l'histoire du peuple d'Israël, toute l'histoire du pays d'Israël. Et spirituellement parlant, il y a des promesses, il y a des prophéties qui sont encore à réaliser. Après que Jésus eut été levé de terre, lorsque Jésus nous a quittés après sa résurrection, les manifestations de l'Esprit-Saint, telles qu'il nous l'avait promis à la finale des Évangiles, ces promesses se sont révélées, se sont réalisées. Ça n'a pas pris de temps. Il y eut beaucoup de prodiges, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, beaucoup de vies transformées. Et je le répète, la finale de chacun des quatre évangiles en témoigne bien avant tout le livre des Actes. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé après le départ de Jésus-Christ, lisez le livre des Actes des apôtres. Les Actes des apôtres, c'est toute la vie, la manifestation du Consolateur, l'Esprit-Saint, qui est raconté. Les mouvements évangéliques et protestants s'inscrivent dans cette ligne. Nous sommes des pratiquants de la Bible. Nous voulons retrouver cette ligne de l'Église primitive naissante, sans les interruptions historiques, sans les ajouts. L'Église catholique, les églises traditionnelles se sont déviées de beaucoup des Écritures. L'Empire romain s'en est emparé en faisant la religion officielle de son empire et en forgeant de toutes pièces une religion qui, encore aujourd'hui, et à travers beaucoup, à travers le monde, a encore beaucoup d'influence. Elle a, au passage, éteint l'Esprit-Saint. Moi, j'avais remarqué dès mon jeune âge, lorsque je lisais les Évangiles et les Actes des apôtres, le décalage entre ce que je voyais dans les Écritures, ce que j'y lisais, et l'Église le dimanche. Et la question que je me posais, pourquoi il n'y a pas de miracle et de guérison à la messe le dimanche? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous pouvons savoir en interrogeant l'histoire que des structures et des rites étrangers ont été introduits, et ce, dès les premiers siècles de l'Église. La soumission à l'Esprit-Saint a été délaissée en cessant de le prier et en cessant d'en tenir compte pour les décisions. Les péchés cachés contristent l'Esprit-Saint et l'empêchent d'agir. Il y a eu le pape, les évêques, tout le clergé qui paraissait bien aux yeux du peuple, mais qui, dans leur intimité, n'étaient pas avec Dieu. Et c'est ça les péchés cachés. À la face du monde, on paraît bien, mais sinon, spirituellement, parce que Dieu voit tout. J'y reviendrai. Jusqu'à aujourd'hui, des églises sont mortes spirituellement, car l'Esprit Saint n'agit pas justement à cause de ça. L'Esprit Saint ne se manifeste pas lorsqu'on ne le prie pas et lorsque on le contristerait. Ces églises vont certainement prier, certainement faire de bonnes choses, faire un assez bon ministère en se limitant à la prière, à la lecture, à la réflexion. Ils vont se contenter de parler des bonnes valeurs humaines et leurs réunions ressemblent à des clubs sociaux. Ni plus ni moins, des clubs sociaux, des conversations de Bible, pas entièrement mauvais, mais qui manquent la puissance de Dieu, qui manquent l'onction du Saint-Esprit. Et c'est tellement important. Et je pense qu'on se coupe de beaucoup, beaucoup de choses. Les membres de ces dix clubs sociaux auront l'impression à la sortie de l'assemblée qu'ils auront fait leur devoir de vie et qu'ils sont corrects pour la semaine. Il y a quelques années, il y avait une église catholique proche de chez moi, puis je voyais les gens sortir, puis c'est justement l'impression que j'avais ou qu'eux autres y sentaient, sont corrects pour la semaine, ils ont communié corrects pour la semaine. Une véritable Église en Jésus-Christ, c'est celle qui fait la volonté de Dieu en toutes choses et qui se soumet à la direction de l'Esprit-Saint. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui guérit. Il n'est pas normal qu'après 2 millénaires, il y ait tant de détresse, tant de maladies chez les chrétiens. Il faut se remettre sur pied. Il faut remettre sur pied des églises qui parlent. Que l'Esprit-Saint parle aux églises comme au tout début, ça n'aurait jamais dû changer. Et dans les temps qui courent ou dans les temps qui viendront plus que jamais, le monde a besoin de paroles d'espoir de la Bible. Le monde a besoin de connaître Dieu. Le monde a besoin de connaître la puissance de Jésus-Christ et la puissance de l'Esprit-Saint. Le monde a besoin de Dieu. Les gens ont une image de la parole de Dieu, ont une image de l'Église. Et cette image, elle est erronée, elle n'est pas la vérité, et cette image n'attire pas, pleine de préjugés, parce qu'elle est teintée de beaucoup de contre-témoignages historiques. La coupe est pleine. Et d'autant plus que l'ignorance des Écritures laisse les gens errer dans leurs recherches. Ils commettent souvent l'irréparable. Il y a un courant de pensée qui veut faire croire, par exemple, la mort comme une délivrance du suicide à l'euthanasie. Ce courant est une prédication largement diffusée dans les films et les téléromans, une prédication de l'ennemi de la foi, le Satan, l'ennemi. On fait croire aussi que les personnes se sentent bien après leur mort en les substituant à des anges. Souvent, on entend dire « Mon père ou ma mère est devenu mon ange gardien. » Toute autre personne aimée devient un ange qui veille ou un petit Dieu personnel qu'on va prier en cas de besoin. Et sachez, chers frères et sœurs, que ce sont des fables. Ce sont des fables que les gens se sont inventées pour se consoler. Les fables ne sont pas seulement celles de La Fontaine. Les fables ne sont pas seulement les histoires et les contes de notre enfance. Les fables sont des histoires inventées. Tout ce qui n'a rien à voir avec la réalité, et ça va nous réconforter. Et c'est quand même proche de la mythomanie. Beaucoup de gens qui fréquentent les églises conservent dans leur cœur encore ce genre de fable qu'ils se sont bâtis avant de venir à Dieu. Toutefois, lorsque les personnes avancent dans les connaissances bibliques et de Dieu lui-même et que l'Esprit-Saint agit par l'effusion, par son baptême qui vient envahir la personne et l'Esprit-Saint enseigne beaucoup de choses en très peu de temps, même peut enseigner, convertir quelqu'un en une fraction de seconde. Et dans ce temps-là, les fables les plus farfelues les unes que les autres disparaissent. La connaissance de la doctrine, et je parle de la doctrine que renferme la Bible, c'est la seule et vraie et unique doctrine qui nous révèle Dieu. La connaissance de la doctrine, de cette doctrine, permet de mieux repositionner la connaissance des récits bibliques et des personnages que nous connaissons depuis notre enfance. Pardon. L'âge adulte et la maturité doivent motiver la recherche et la croissance pour dépasser l'image et les souvenirs des récits bibliques laissés dans l'enfance. Ne pas le faire produira deux choses qu'on observe encore. L'oubliette des souvenirs spirituels et la prolifération de légendes et fables personnelles. Par exemple, je reviens là-dessus, si j'en ai parlé, on entend des choses qui ne sont pas théologiquement et bibliquement acceptable. Par exemple, lorsque Jésus s'est élevé de terre, on va parler que Marie se serait endormie avec le Seigneur, mais se serait élevée de terre, et il y a un dogme dont le nom m'échappe. Mais ça n'a pas de fondement biblique. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'écrits dans le temps qui n'ont pas été retenus au canon des Écritures, qu'on appelle les écrits apocryphes. Alors, il y a eu toutes sortes de choses d'écrits, plus ou moins correctes, et qui n'ont finalement pas été retenues au canon des Écritures parce qu'elles n'avaient pas ce caractère spirituel qui pouvait nous enseigner quelque chose de plus en orthodoxie, oui, en étant correct et selon la vraie et véritable doctrine de Dieu. Certes, le souvenir des choses apprises sont stagnées par le temps. Bien qu'elles sont inoffensives, stagnantes, elles n'amènent pas la bénédiction et une plénière vie en Dieu. Ce qu'on a appris jeune, par exemple, si on ne leur travaille pas, si on ne leur visite pas, si notre foi, s'il en est une, n'est pas nourrie, ça va rester de même. L'éducation chrétienne infantile gomme des réalités et des évidences historico-critiques qui ont été et qui sont encore aujourd'hui étudiées dans la doctrine et qui sont importantes. Elles sont volontaires, comme il est important de le faire, comme dans toute discipline académique, à cause du développement intellectuel ainsi que de l'intelligence formelle. Pour l'enseignement biblique, on ajoutera la maturité et le sens moral. Les adolescents et les adultes qui ont poursuivi leurs études chrétiennes ont revisité, bien évidemment, les récits bibliques. Ceux qui ont décidé de pousser vers la recherche théologique, ceux qui ont décidé de faire de telles études pour pouvoir prêcher et enseigner, ont revisité les évangiles de leur enfance, ont revisité la Bible qu'ils avaient lue alors qu'ils étaient tout jeunes. Et le problème est vite résorbé. Lorsqu'un chrétien, dans son cheminement, continue non seulement à entendre des prédications, à aller à l'église, mais également de lire la Bible sur une période de 1 à 2 ans de la Genèse à l'Apocalypse. Ce souhait, toutefois, ne fait pas l'unanimité de toute l'Église et de tous les chrétiens. L'espace d'une année est idéal. Par exemple, dans l'Église traditionnelle, dans la liturgie de l'Église catholique, par exemple, que je connais très bien, on va lire la Bible sur une période de 3 ans qu'on va découper dans toutes les messes sur un cycle liturgique et qui est découpé en année B, année A, année B, année C. Mais personnellement, pour les fidèles, ça fait pas une lecture, à moins d'aller à la messe tous les jours et de voir vraiment la progression dans la vie spirituelle. Mais c'est trop anémique comme façon de faire pour nourrir la vie spirituelle. La lecture est trop espacée dans le temps pour qu'elle entre dans l'esprit, pour qu'elle entre dans la conscience et surtout qu'elle entre dans le cœur et qu'elle y prenne toute sa place. Moi, je dis que la lecture de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, l'espace de le faire pendant une année est l'idéal. Ne le fait-on pas pour atteindre des objectifs académiques donnés en un an en vue d'une diplomation, par exemple, ou un métier à exercer, on nous fait lire des livres sur une période donnée, pourquoi qu'on ne le ferait pas pour la Bible? Pourquoi qu'on ne le ferait pas pour le bien de sa vie chrétienne? Pourquoi qu'on ne le ferait pas pour la croyance? Pourquoi qu'on ne le ferait pas pour connaître Dieu au lieu de dire n'importe quoi, au lieu de se livrer à n'importe quelle ânerie. C'est fini le temps où on pense que la Bible est réservée uniquement à une élite ecclésiastique, aux prêtres, aux évêques, aux cardinaux. C'est aberrant de penser comme ça. Les ecclésiastiques qui ont peine à enseigner ce qu'ils ont lu, et on en voit encore, parce qu'ils sont dans cette spirale-là de ne pas lire les Écritures et de le lire de façon obligée. La meilleure connaissance d'une discipline, c'est de l'exercer, de faire des lectures dirigées, de faire des lectures personnelles. La pédagogie de la foi véhiculée par les différents personnages bibliques doit progresser intellectuellement et spirituellement dans le cœur des chrétiens. Vous me direz que c'est le rôle des prédications. Certainement, toutefois, le fait de sonder les Écritures stimule le goût d'apprendre plus de Dieu. Les patriarches et les prophètes, notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, par le souffle de l'Esprit-Saint, nous conduisent à la vérité. De cette façon, les fables, les faussetés, les hérésies, les faux enseignements seront chassés de notre esprit et de notre cœur. J'ai été surpris de rencontrer ces derniers temps des chrétiens d'une certaine sagesse, d'un long parcours en Église, me dire qu'ils avaient lu quelquefois la Bible d'un couvert à l'autre, parfois d'une traite sur un an ou bien sur une période plus longue, de façon morcelée. Et c'est comme ça d'ailleurs que s'est fait mon premier contact avec la Bible. Ma surprise de constater un comportement étrange comme de l'autosuffisance spirituelle qu'on ne fait même pas dans d'autres disciplines. Imaginez un médecin de 30 ans de pratique médicale ne jamais lire et relire des ouvrages, des articles de revues spécialisées et assister à des conférences. N'en serait-il pas de même pour un chrétien d'en connaître plus long sur son Dieu? Et les opinions sont partagées. Surpris. Surpris de constater le peu d'entrain, le peu de zèle de ne pas lire la Bible du lit, le lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en passant par les prophètes, les patriarches, les psaumes. Quelqu'un me disait, je sais tout ça, j'ai lu l'Ancien Testament, je lis, je relis quelques passages d'Évangile et les Épîtres de temps en temps, les personnages, les histoires dépassées, de la simple anecdote infantile, de contes. Ils sont vraiment très denses et très riches d'enseignements et de bénédictions. Une certaine objection promu par certaines églises de lire l'Ancien Testament, non pas une interdiction formelle, mais dissuasive sous forme d'avertissement, que d'aller chercher des clés de lecture. L'herméneutique est la science d'interpréter pour les temps actuels les textes philosophiques, religieux, sacrés, les prédictions et les études bibliques. Les prédications plutôt, et les études bibliques s'attellent à cette tâche. Beaucoup d'églises y croient beaucoup et il est dommage de constater qu'ils y croient beaucoup plus que l'action éclairante de l'Esprit-Saint. D'autres sont sous sa mouvance pour enseigner et comprendre les Écritures. Je comprends cette prudence et cette attitude quelque peu farouche de préserver l'authenticité doctrinale de la Bible. elle ne fait pas confiance à l'intégralité du Saint-Esprit, lequel, pourtant, a inspiré la rédaction des Saintes Écritures. Tout de même aberrant cette attitude que de se croire autosuffisant face à la parole de Dieu, la lire de façon saccadée, n'apporte peut-être pas autant. Quand je le faisais, je pensais connaître les Écritures, mais pourtant, si seulement j'avais complété mes études de théologie avec la Bible ouverte à côté de moi, les multiples bénédictions et l'appui du Seigneur auraient été pas mal plus avec moi. Le ministère de Jésus-Christ, en son nom que je voulais faire dans ma vingtaine d'années, que je voulais faire, aurait été vraiment, mais vraiment plus fécond. Depuis 8 ans que je suis dans une église de Dieu, ça fait également 8 fois que je lis la Bible sur l'espace d'un an, 12 ou 15 mois peut-être. Je lis comme beaucoup la Bible tous les jours. J'ai vu mon cheminement spirituel s'améliorer, mes connaissances augmenter, pas mal plus que mes études théologiques. Parce que dans mes études théologiques, je n'ai pas tout appris. Je n'ai pas tout appris dans la faculté. Les théologiens exégètes, spécialistes de l'herméneutique connaissent beaucoup de choses techniques au niveau de l'écriture, des langues et plus. Et la connaissance de la voix de Dieu, de la doctrine pure, est laissée aux plus petits qui se réunissent autour d'anciens. Et c'est là que l'Esprit-Saint révèle le secret des Écritures. Je termine ce podcast en vous disant que je trouve scandaleux et choquant de constater que les prédicateurs de l'Église romaine ne connaissent pas la Bible autant, autrement que par fragments. J'ajoute que peu importe l'herméneutique que puissent en faire ces bien-pensants, ils ne peuvent aspirer à enseigner tout à fait la vérité comme ils le proclament. En plus, une église d'hommes avec des rites mensongers ne peut amener à Dieu. Une église de Dieu est guidée par l'autorité suprême de Dieu, par son Esprit-Saint. La seule façon de connaître comment Dieu fonctionne et d'éviter les hérésies et de lire la Bible et de ne pas commettre de péché. Si Dieu se révèle comme un seul Dieu, que Jésus-Christ forme une seule Église, comment se fait-il qu'il y ait beaucoup d'Églises et différentes doctrines? Ce sera l'objet d'un prochain podcast, mais tout de même, je vais vous dire que on s'y perd si on n'a pas les données historiques. Même le commun des mortels, les gens qui nous entourent, comprennent absolument rien à la religion parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de religions, justement, qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent de la même affaire ou qui ne parlent pas de la même affaire. On s'y perd. Alors, c'est tout en ce qui concerne ce podcast. C'est Vincent Côté qui vous invite à joindre le groupe Facebook d'enseigner la parole pour en vivre. Et abonnez-vous aussi au site de Jalon Vie où il y aura plein de podcasts et de vidéos à venir. Et il y a le canal YouTube qui s'en vient bientôt. Soyez bénis, frères et sœurs, et je vous encourage à connaître véritablement la parole de Dieu avec l'aide de son Esprit-Saint. Soyez bénis, tout le monde. Amen.